la région, et parce que c'est une journée européenne, de parler ensemble de la citoyenneté européenne. Monsieur Champeau, qui est un philosophe, cherchera avec vous si c'est une chance ou si c'est une contrainte d'être des citoyens européens. Moi, je voudrais, si vous le permettez, parler avec vous pendant 18 minutes, j'ai déjà parlé 2 minutes, de la notion de citoyenneté européenne. Vous êtes des citoyens et des citoyennes européennes et vous ne le savez pas. Pourquoi ? Ceux qui ont créé l'Europe ont voulu coaliser des États, mais ils ont aussi voulu unir des hommes et des femmes. Unir des hommes et des femmes, c'est les organiser en communauté. Le citoyen, c'est le membre d'une communauté politique. Nous sommes, nous, les Européens, membres d'une communauté politique. Nous ne le savons pas pourquoi. C'est la première partie de mon intervention. Et que peut-on faire pour le mieux savoir ? C'est la deuxième partie de mon intervention. Nous ne le savons pas pourquoi. Je vous propose 4 réponses à cette question. Première réponse, nous ne le savons pas parce que la citoyenneté est aujourd'hui encore vécue comme un monopole des États. Or, il y a eu une citoyenneté avant l'État. Le mot citoyenneté, qui est la qualité du citoyen, on le sait tous, nous renvoie aux cités de la Grèce. Il n'y avait pas d'État grec. Il y aura une citoyenneté après l'État, mais qui ne fera pas disparaître la citoyenneté de l'État. Et la citoyenneté d'après l'État, c'est la vôtre jeune, c'est la nôtre vieux, c'est la citoyenneté de l'Europe. Donc la première raison, c'est le monopole que les États croient encore le droit de s'arroger sur le concept de citoyenneté. Il y a une deuxième raison, c'est que le mot citoyen n'a pas le même sens dans tous les pays d'Europe. La citoyenneté européenne a un contenu qui est le même pour tous les Européens. Par exemple, tous les Européens participent à l'élection au suffrage universel du Parlement européen. Même contenu donc pour tous les Européens, mais pas même sens le mot citoyen. Compte tenu de la part importante qu'a jouée le jumelage entre l'Émilie-Romagne et l'Aquitaine, j'ai choisi en quelques phrases, et mes autres amis des autres pays ne m'en voudront pas, de montrer les différences qui peuvent exister pour un Italien et pour un Français quand ils entendent parler de citoyen et de citoyenneté. Il y a d'abord une ressemblance. Pour un Italien ou pour un Français, le citoyen, c'est le membre d'une communauté politique qu'ils appellent tous les deux citoyens français la nation. Mais la nation, ce n'est pas la même chose pour un Italien et pour un Français, parce que le sens du mot ne renvoie pas au même passé, à la même histoire, à la même expérience. Pour un Italien, le moment fort de son histoire, pardonnez-moi pour l'accent, c'est le Risorgimento. Il a commencé en 1795 par l'entrée des troupes françaises, ressenties par vos amis espagnols le 13 de mayo comme des envahisseurs et accueillies par les Italiens comme des libérateurs. Voilà déjà une différence extraordinaire. Les Français étaient des libérateurs, c'était des voleurs. Ils ont pillé les œuvres d'art italiennes et ils ont, avec cela, doté les musées de France. Et puis le Risorgimento s'est terminé en 1871 par la prise de Rome. Et quel est le résultat de tout ça? Eh bien, c'est l'unité de l'Italie. Et le mot « nation » pour un Italien renvoie au concept d'unité. Alors que pour les Français, la période fondatrice de la France contemporaine, c'est la Révolution française, 1789-1799. Ça ne renvoie pas à l'unité, car quand la Révolution française a éclaté, l'unité de la France était faite. Le problème de la France, c'était pas de faire son unité, c'était de remplacer le roi par quelqu'un d'autre. Le problème des Italiens, c'était de faire leur unité, et ils s'en sont remis à celui qui leur paraissait le plus capable de la faire, c'est-à-dire le roi de la maison de Sardaigne, Savoie. Les Français, leur problème, c'était de remplacer le roi par quelqu'un d'autre, ils l'ont remplacé par la nation, ils l'ont remplacé par la communauté des citoyens. Donc pour un Italien, nation renvoie à unité, pour un Français, nation renvoie à souveraineté. C'est un exemple parmi d'autres, mais chacun d'entre nous, nous avons notre histoire, et le mot citoyen n'évoque pas les mêmes souvenirs. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle c'est difficile de se sentir citoyen européen. Il y a une troisième raison, c'est que c'est difficile de se sentir citoyen d'une institution qui n'est pas visible. Elle est visible pour nous qui nous déplaçons, qui bougeons, qui voyageons. Mais sur le plan interne, sur le plan interne de chacun de nos pays, sur le plan interne de l'Europe, l'Europe, elle est infuse. Une petite explication pour les traducteurs. Une infusion, qu'est-ce que c'est? Vous prenez de la tisane, vous prenez de la menthe, de la camomille, vous mettez ça dans de l'eau chaude et vous avez une infusion. Prenez du thé, des feuilles de thé, vous avez une infusion, vous avez du thé. Bien, le droit européen, vous le trempez dans un liquide qui est notre droit national et vous avez une infusion d'Europe et vous ne vous en rendez même pas compte. La plupart des lois nationales n'existent que pour introduire dans le liquide national l'infusion, les feuilles du droit européen. Et vous vivez dans un univers dont vous pensez qu'il est français, qu'il est allemand, qu'il est espagnol, qu'il est italien. Ça n'est pas vrai. Il est européen et vous ne le savez pas. Et c'est extrêmement difficile de se sentir citoyen d'une institution qui n'est pas franchement visible sur le plan interne. Et sur le plan externe, elle est impuissante. En Birmanie, il y a une catastrophe humanitaire. Qu'est-ce que j'ai entendu à la radio? J'ai entendu à la radio que la commission, qu'on considère souvent comme l'embryon du gouvernement de l'Europe, avait décidé de réunir les ministres compétents de tous les États. Vous imaginez, il y a une catastrophe. La seule chose qu'on puisse faire pour réagir, c'est de convoquer une réunion de ministres. C'est pas extraordinaire. Voilà, ça c'est une marque d'impuissance. Faites la liste de toutes les grandes catastrophes qui peuvent nous menacer. Et dont je pense que la plus grande serait peut-être le retrait de l'Amérique du monde. C'est la plus grande, car si l'Europe n'est pas capable de la remplacer, sur tous les fronts, c'est ce que j'appelle une catastrophe. Catastrophe par ailleurs humanitaire, catastrophe. Imaginez que la Chine cesse pacifiquement de se prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour un grand État-nation. On a besoin de l'Europe. L'Europe, pour l'instant, est impuissante. Comment peut-on se sentir citoyen d'une organisation qui est impuissante? Donc ça, c'est la troisième raison. Et puis la quatrième raison, c'est que le temps fort de notre citoyenneté, c'est l'élection du Parlement européen. Mais rien à voir entre le Parlement européen et le Parlement italien ou le Parlement des Pays-Bas, rien à voir, car le pouvoir premier d'un Parlement, c'est de voter la loi. Or, les pouvoirs du Parlement européen dans le domaine du vote de la loi sont extrêmement restreints. Le pouvoir essentiel appartient au Conseil des ministres des États. On dit Conseil des ministres, mais en réalité, c'est une chambre législative. C'est comparable à la Chambre des Lords. C'est comparable au Sénat français. C'est comparable au Bundesrat allemand. Mais alors que le Bundesrat allemand a moins de pouvoir que le Bundestag, alors que la Chambre des Lords a moins de pouvoir que le Parlement de Westminster, alors que le Sénat français a moins de pouvoir que la Chambre des députés, il se trouve que le Conseil des ministres a beaucoup plus de pouvoir que le Parlement. Or, ce qui est élu au suffrage universel a moins de pouvoir que ce qui ne l'est pas. Alors, ce qui ne l'est pas l'est élu indirectement, car les ministres sont désignés par... par exemple, en France, le président de la République lui-même étant élu au suffrage universel. Mais ça fait beaucoup d'intermédiaires entre votre bulletin de vote et celui qui se réunit à Bruxelles. beaucoup trop d'intermédiaires. La représentation est indispensable. Mais quand la représentation s'enchaîne sur une autre représentation, il y a une trop trop grande distance. Donc voilà la quatrième raison. Alors comment pouvons-nous faire pour nous sentir davantage citoyens européens? D'abord, abandonnons-nous à nos désirs. Voyageons-nous, rencontrons-nous. Ça, c'est la manière la plus agréable. Et puis, pour m'en tenir à quelque chose qui reste à notre portée, dans notre association, qui reste à la portée des ministères de l'éducation, qui reste à la portée des régions françaises, développons une éducation à la citoyenneté européenne. Faisons des manuels d'éducation à la citoyenneté européenne qui soient les mêmes pour tous les Européens. Je sais que, par exemple, Allemands et Français ont maintenant des manuels d'histoire commun, que Polonais et Allemands ont des manuels d'histoire commun. Mais c'est presque un peu dépassé. Nous avons dépassé le temps où il fallait panser nos plaies. L'Europe n'est pas une infirmerie, l'Europe c'est notre avenir. Ce n'est pas le pansement des plaies du passé. Ce qu'il faut maintenant, c'est peut-être, pour achever notre réconciliation, qui n'a pas besoin de l'aide, car nous le sommes, des manuels d'histoire commun. Mais ce qu'il faut surtout, c'est une conception identique de la citoyenneté qui fasse de nous tous le ferment révolutionnaire de l'Europe. Les États sont des barrières. L'Europe est une frontière au sens que les Américains donnent au mot. L'Europe, c'est notre horizon. Il n'y a pas un problème dans le monde que vous ne pourriez mieux résoudre s'il y avait plus d'Europe. Et il n'y a pas un problème dans le monde qui serait moins bien résolu s'il y avait moins d'Europe. En plus, la citoyenneté, à l'éducation de laquelle nous appelons, c'est finalement ce que les Européens ont en commun. Être citoyen, ce n'est pas seulement être le membre d'une ville, c'est vouloir forger son destin. C'est pas seulement avoir toutes les connaissances, c'est rêver de tous les engagements pour que notre vie soit meilleure. Vous croyez que votre vie sera meilleure si vous vous cantonnez dans votre cité? Vous croyez que votre vie sera meilleure si vous vous cantonnez dans votre région? Vous croyez que votre vie sera meilleure si vous vous cantonnez dans votre État? Il faut aussi, pour que votre vie soit meilleure, que vous agissiez au niveau de l'Europe. Car la citoyenneté à laquelle nous vous appelons, c'est une citoyenneté à plusieurs étages. C'est la citoyenneté locale, c'est la citoyenneté régionale, c'est la citoyenneté de l'État et c'est la citoyenneté de l'Europe. Voilà ce que je voulais vous dire, je vous remercie.
Merci Daniel Malingre. Donc si je résume votre propos, il faut savoir passer de l'infusion à l'effusion européenne. Et il faut savoir s'envoyer en l'air avec une fusée à plusieurs étages. C'est ça que j'ai compris. Alors, Serge Champeau, vous êtes enseignant, vous avez tous les jours en face de vous des étudiants, c'est encore le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette Europe chance ou contrainte pour les citoyens qu'on a en face de nous?
Merci. Daniel Malingre a déjà dit beaucoup de choses sur l'Europe comme chance pour tous les Européens et peut-être même pour d'autres en dehors de l'Europe. Je voudrais rappeler simplement deux ou trois choses. D'abord, permettez-moi de définir très rapidement ce qu'est une chance, ce qu'est une contrainte. Une chance, ce n'est pas ce qui tombe du ciel. Ce n'est pas ce qu'on trouve quand on creuse la terre, on trouve un trésor. C'est l'exemple que donne Aristote dans un traité célèbre. L'Europe, ce n'est pas non plus ce que vous attrapez au vol, en quelque sorte. L'Europe, c'est la chance, c'est plutôt une opportunité. En anglais, vous avez la distinction entre luck et opportunity. C'est plutôt une possibilité d'agir de manière créatrice. Pensez par exemple à ce qu'on appelle l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est grâce à l'éducation de donner à chacun la possibilité d'agir sur son destin, de maîtriser son destin, de faire sa propre carrière comme il l'entend. Donc je crois que ça est très important. La chance, ce n'est pas quelque chose qui est reçu passivement, mais qui est un appel à l'activité. Quant à la contrainte, bien, c'est ce qui gêne chacun, ce qui fait qu'il ne peut pas développer sa liberté. Après ce petit rappel sémantique, bien, je voudrais faire un petit détour sur l'histoire de l'Europe. Rappeler que l'Europe, bien sûr, n'est pas une chance au sens où elle serait en quelque sorte tombée du ciel. Elle a pas été non plus attrapée au vol et n'est pas non plus un processus inéluctable, nécessaire tout simplement parce qu'il n'y a pas de loi de l'histoire. L'Europe, elle est née, je crois, dans l'esprit de grands hommes politiques qui étaient soutenus par des peuples, à un moment extrêmement dramatique de l'histoire européenne, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et ces hommes ont fait un effort créateur pour inventer quelque chose de nouveau. Pourquoi inventer quelque chose de nouveau ? Bien parce que on est dans une période d'extrême contrainte. Et cette période d'extrême contrainte, elle était née paradoxalement, étrangement, d'une chance. La chance, c'était l'État-nation. Les États-nations se sont mis en place au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et ils ont été quelque chose d'extrêmement positif, parce que dans ces États est née la démocratie, dans le meilleur des cas, pas toujours, hein, il y a eu aussi des États totalitaires, hein, mais la démocratie est née dans ce cadre. Mais en même temps, l'État-nation a été quelque chose qui a débouché, vous savez, sur le nationalisme, malheureusement, hein, et sur son cortège de malheurs, sur les guerres qui ont ravagé le continent européen. C'est ce mélange de contraintes et de chances, hein, devant lequel se trouvent, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants européens, les peuples européens, et ils ont saisi cette opportunité pour créer quelque chose de radicalement nouveau. Créer dans cette situation quelque chose qui n'est ni un super-État, ni une confédération au sens classique, qui est une réalité d'un nouveau type. Et cette réalité avait pour but de dépasser les problèmes très graves dans lesquels se trouvait l'Europe. Jean Monnet emploie une très belle formule, il dit une fusion des intérêts et pas seulement un équilibre des intérêts. Alors cette union, je vais en terminer avec le rappel du passé, cette union elle a été d'abord une union économique autour du charbon, de l'acier, de l'atome, elle a été progressivement une Europe politique parce qu'il fallait bien prendre des décisions en commun et arriver à construire des institutions pour cela. Elle a été aussi une Europe des valeurs, progressivement une Europe des valeurs universelles, la paix, la tolérance, mais aussi des valeurs proprement européennes. Pensez par exemple à l'abolition de la peine de mort, qui est une réalité effective au niveau européen, qui ne l'est pas ailleurs, même dans les démocraties, pensez aux États-Unis. Et cette Europe, progressivement, s'est élargie, s'est approfondie, et je voudrais rappeler, avant d'en venir au présent, elle s'est élargie, elle s'est approfondie jusqu'ici de manière assez peu démocratique. C'est pas critique, mais il n'y avait peut-être pas moyen de faire autrement à la sortie de la guerre que de construire l'Europe de haut en bas, de manière, disons, un petit peu technocratique. Alors, j'en viendrai à l'Europe du présent, hein, pour dire que c'est vrai que c'est une grande chance d'être aujourd'hui dans l'Europe, mais ça ne suffit pas. Si par chance on veut dire que voilà, c'est un état de fait, c'est une grande chance d'avoir l'espace de Schengen, on peut voyager librement, c'est une grande chance d'avoir l'euro, même si c'est par ailleurs une contrainte aussi en ce moment, hein, pour les chefs d'entreprise pour exporter, je ne veux pas dire simplement ça, je veux dire que c'est une grande chance d'être dans l'Europe, parce que d'une certaine manière c'est une opportunité à saisir pour encore aller plus loin, pour construire davantage l'Europe. Et je voudrais donner trois exemples. Simplement trois exemples, pour insister sur d'autres points. Le premier, c'est que ceux qui ont construit l'Europe, ils ont construit quelque chose d'assez extraordinaire, une union politique d'États souverains. Union d'États souverains. Il y a presque une contradiction en apparence, hein, ce que les linguistes appellent un oxymore. Hein. Une contradiction entre une union d'États souverains. Et cette union d'États souverains, qui, je l'ai dit, n'est pas un État fédéral, c'est un État fédéral comme l'Allemagne ou comme les États-Unis, malgré tout, elle fonctionne. Et je crois qu'elle nous indique la voie de quelque chose de très important. Alors, je ne voudrais pas, surtout en présence des élus, trop critiquer la politique française, mais je voudrais dire quand même que la démocratie française, et c'est valable pour tous les autres pays européens, c'est une démocratie, c'est particulièrement net dans notre pays, qui est une démocratie très conflictuelle. Quelquefois, on se traite de tous les noms d'oiseaux dans le Parlement français. Au niveau européen, on voit apparaître quelque chose de vraiment fondamental. Regardez les débats au Parlement européen, ils ne sont pas ennuyeux, ils sont peut-être moins conflictuels. On a une démocratie qui est davantage une démocratie de consensus. D'accord. Et là, je crois qu'il y a une voie très importante vers une démocratie plus raisonnable, plus rationnelle, qui ne soit plus une sorte de continuation de la guerre, hein, mais qui soit moins conflictuelle. C'est quelque chose, je crois, que l'Europe peut nous apprendre, et c'est quelque chose qui doit être investi aujourd'hui par vous, par les nouvelles générations, pour construire une nouvelle vie politique. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un député européen du Sud-Ouest qui disait quelque chose de très très intéressant, c'est que moi je ne peux pas, disait-il, insulter un Allemand, un Polonais, un Roumain, et un Roumain ne peut pas insulter un Français, un Allemand ne peut pas insulter un Espagnol. Cela est impossible, hein. Notre histoire l'interdit. Et il y a quelque chose là, je crois, sans vouloir encore une fois négliger et critiquer la politique française, la politique nationale, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui paraît fondamental. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est un nouveau rapport de l'Europe avec son extérieur, avec les autres pays du monde. Quelque chose qui est là aussi très nouveau. Il y a quelqu'un à l'IEP de Paris qui s'appelle Zaki Naidi qui a écrit un beau livre qui s'appelle « La norme sans la force ». La norme sans la force, ça veut dire que l'Europe est en train d'inventer quelque chose d'autre que ce qu'on appelle la « réelle politique », ce qu'on appelle la politique traditionnelle de la puissance. La norme sans la force, ça veut dire que l'Europe essaie de faire valoir, et le président Rousset l'a évoqué rapidement à propos des problèmes de politique internationale, l'Europe est en train d'inventer quelque chose de nouveau, faire prévaloir la force de la norme, c'est-à-dire la force du droit, contre la norme de la force, en quelque sorte. Hein. Inventer de nouvelles relations, et en ce sens, l'Europe, je crois, sans vouloir nous gargariser, hein, sans vouloir nous envoyer des fleurs, parce que c'est toujours trop dangereux de faire ça, il faut se méfier de l'autocontentement, mais l'Europe est, je crois, un espace d'avant-garde. Hein, un espace d'avant-garde pour la construction d'un monde multipolaire et d'un monde où les relations internationales ne sont plus régies par la seule puissance. Je voudrais donner un dernier exemple. Un dernier exemple, c'est la mondialisation. Nous assistons en ce moment à un énorme développement économique qu'on résume, et pas seulement économique, politique, culturel, qu'on résume par le terme de mondialisation. C'est un phénomène éminemment positif. Pensez par exemple à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, la Chine, l'Inde, qui sortent du sous-développement, hein, le plus grand développement économique que l'humanité ait connu. Je crois qu'il faut le rappeler. Hein. Mais cela s'accompagne nécessairement, vous le savez, de phénomènes négatifs, comme chaque fois qu'il y a eu un énorme progrès de l'humanité. Ces phénomènes négatifs, ce sont dans certains pays les inégalités qui se développent, hein. Ce sont les problèmes écologiques, bien sûr, vous les connaissez, à propos de la Chine ou de l'Inde ou d'autres pays, ou du Brésil. Ce sont aussi le développement de multiples mafias, trafics, prostitution, etc. Un phénomène très, très complexe. Et je crois que l'Europe est une chance, là aussi, parce que c'est un espace conformant à ce que trop souvent l'on dit de régulation. C'est un espace où ces problèmes peuvent être traités. Alors naturellement, il y a des institutions internationales, hein, comme l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, etc. Mais je crois que le travail le plus positif en ce moment se fait au niveau de l'Europe. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais par exemple au niveau écologique, hein, le programme qui s'appelle REACH, qui est un programme de contrôle des produits chimiques qui concernent directement les consommateurs, des normes extrêmement précises en matière de chimie, bien, c'est considéré partout dans le monde comme une mesure d'avant-garde. Hein. De même, au niveau écologique, vous avez vu que l'Europe a pris l'engagement de réduire de 20% la production de CO2, ce qui là aussi est quelque chose de fondamental. Hein. On pourrait parler de bien d'autres problèmes, par exemple des flux migratoires. Hein. Construire progressivement une immigration maîtrisée, c'est quelque chose de fondamental, c'est une tâche de l'Europe, parce que tout a un peu échoué. Le melting pot à l'américaine n'a pas toujours bien réussi, hein. Le multiculturalisme à la hollandaise ou à l'anglaise n'a pas toujours bien fonctionné non plus, l'intégration française, on sait qu'elle est un peu bancale. Hein. Je crois qu'il faut inventer quelque chose, une immigration qui soit à l'avantage des immigrés, de nos sociétés, mais aussi des pays d'Afrique, des pays du tiers-monde, etc. J'en resterai là, je voudrais dire pour conclure hein, que ces problèmes sont des chances. C'est un peu étrange de dire qu'un problème est une chance, hein, mais ces problèmes sont des chances pour l'Europe, au sens où ils demandent un grand effort pour être résolus. C'est-à-dire une volonté de sortir des solutions toutes faites, parce que les solutions toutes faites, ce sont toujours des ornières. Et dire que l'Union européenne, et c'est sur ce point que je voudrais insister pour finir, dire que l'Union européenne est une chance, le dire à vous qui avez 20 ans, ou moins de 20 ans, hein, ce n'est pas dire que vous devez l'accepter telle qu'elle est. Ce serait terrible de dire ça. Dire à quelqu'un qui a 20 ans qu'il doit accepter la réalité telle qu'elle est, c'est lui dire quelque chose de terrible, c'est lui dire on a travaillé pour vous, on a fait l'Europe pour vous. Mais ce n'est pas cela. Hein. L'Europe, c'est une opportunité, c'est un ensemble de possibilités aujourd'hui, c'est un ensemble de problèmes. Et je crois qu'il faut que vous vous empariez de ce problème. L'Europe n'est pas un hasard heureux, elle n'est pas le résultat inéluctable de l'histoire. Malheureusement, elle pourrait disparaître hein, si nous ne veillons pas sur l'Europe, si nous ne cherchons pas à la maintenir et à la développer. Et finalement, c'est une chance, et là aussi je terminerai par une sorte de paradoxe, hein. C'est une chance au sens où c'est un fardeau. C'est un lourd travail qui repose sur chacune de nos épaules, sur les épaules de chacun d'entre nous, hein. Un travail qui est celui des années à venir. Comment développer davantage l'Europe, être fidèle à ce que des hommes comme Jean Monnet, Robert Schuman, Delors et bien d'autres, hein, pour citer que des Français, il y a dans chaque pays il y a eu des grands hommes, comment développer cet effort créateur, comment continuer à inventer l'Europe. Je dirais, mais j'ai un peu peur en employant cette expression, parce que pour la traduire, c'est pas très simple, je dirais qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Beaucoup de travail à faire, mais ce travail, c'est vous qui le ferez en inventant l'Europe du futur. Voilà.
Merci Serge Champeau. Alors pour vous donner la suite des éléments, donc on a une heure devant nous pour débattre, et c'est quand même le but de l'opération. Vous avez parlé, Serge Champeau, de cette Europe dont on doit s'emparer. Et j'aimerais bien justement que nos amis qui sont là dans la salle, de différentes nationalités, s'emparent du débat. C'est-à-dire que vous, comment vous vivez l'Europe? Est-ce que vous la vivez comme une chance, comme une contrainte, comme les deux? Est-ce que pour vous l'Europe, c'est d'aller faire la fête à Saint-Sébastien que vous habitez dans le sud-ouest? Est-ce que c'est d'aller faire des études dans le cadre du plan Erasmus? Est-ce qu'au contraire, c'est une espèce d'ennui permanent avec des institutions qu'elle ne comprend rien? Est-ce que c'est un faux nez du libéralisme économique, la grande peur des lendemains qui déchante, etc. Comment vous vivez, vous, cette Europe-là, au quotidien? Et à vous la parole. Je pense qu'il doit y avoir un micro, normalement.